Hélène Combes, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous vous penchez sur la mobilisation des militants de gauche à Mexico, une mobilisation qui débouche en 2018 sur l'élection de Andrés Manuel López Obrador à la présidence mexicaine. Alors vous étiez en immersion au sein du mouvement qui a porté AMLO au pouvoir. En quelques mots, Hélène Combes, quelle est la clé de son succès?
Alors, ce que je montre dans mon livre, hein, c'est l'histoire d'une victoire, mais une victoire qui a pris du temps, en fait, 12 ans dans mon ouvrage, hein, parce que je suis en fait 8 personnages, 4 cadres politiques, dont une écrivaine et 4 militants de quartier populaire sur toute cette période. Et je montre en fait comment c'est un long travail d'organisation qui a été fait à l'échelle de quartier populaire, la création d'un journal qui va devenir un organe finalement d'éducation populaire qui va permettre hein, de réactiver des réseaux militants qui étaient parfois anciens, qui étaient liés notamment aux mobilisations urbaines en particulier qui ont été très intenses après le tremblement de terre de 1985. Et en fait, pendant entre 2006 et 2018, hein, López Obrador, mais aussi des gens qui l'entourent, notamment ces cadres politiques que je suis, vont faire tout un travail territorial dans les quartiers de Mexico. Et ce que je montre aussi, c'est qu'en fait, ce travail, il est variable en fonction des quartiers de cette ville, hein, qui est une ville immense, une des plus grandes villes du monde, où il y a des histoires urbaines très contrastées. Et donc, on ne peut comprendre finalement le succès de ces mobilisations, puis de la transformation en parti, puis de la victoire à l'élection présidentielle qui s'appuie en grande partie sur Mexico, qui concentre une partie de l'électorat, sans revenir à une histoire très spécifique et différente de quartiers qui sont des quartiers du centre historique de Mexico, plutôt coloniaux, ou des quartiers d'autoconstruction à flanc de volcan, des terrains qui ont été occupés par des migrants ruraux dans les années 70 autour de réseaux amicaux, familiaux, villageois, et qui a impliqué des formes de sociabilité populaire très spécifiques qui sont reprises dans les mobilisations.
Est-ce que cette mobilisation, Hélène Combes, est un phénomène urbain ou est-ce qu'on observe cette même ferveur un peu partout dans le pays?
Alors, ce qui est très intéressant dans le contexte du Mexique, c'est qu'il y a des poches de très forte politisation, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. J'avais travaillé sur ces questions-là précédemment dans un autre ouvrage intitulé Trajectoire de gauche au Mexique, et où là, je montrais que des dirigeants de mouvements sociaux dans des zones rurales, notamment par exemple dans l'État du Guerrero, avaient aussi très fortement contribué à la création d'un parti de gauche sous une forme qui finalement est assez classique en Amérique latine, hein, que j'ai commencé à étudier à la fin des années 90 et qui maintenant est considérée comme classique, et qui est celle du parti mouvement, donc avec une très forte articulation entre le tissu associatif, des mobilisations des mouvements sociaux et des appareils partisans. Et donc là, dans cet ouvrage de la rue à la présidence, Foyer contestataire à Mexico, je me centre plus particulièrement sur le contexte urbain.
Vous avez commencé votre enquête en 2006. Alors aujourd'hui, 18 ans plus tard, est-ce que vous diriez que la ferveur de la mobilisation pro-Morena reste intacte ou il y a quelque chose qui a changé?
Déjà, Morena a remporté l'élection présidentielle du 2 juin avec presque 60% des voix, hein, et donc a vu accéder au poste suprême au Mexique une femme, Claudia Sheinbaum, qui est l'un de mes personnages, hein. J'ai commencé à suivre Claudia Sheinbaum dès 2006. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. J'ai suivi des mobilisations dont elle a été la principale artisane, hein, notamment ce qu'on appelait la mobilisation des années l'ITAS, qui est une mobilisation qui a été organisée contre la privatisation de la compagnie Pemex et dont elle était à la tête. C'était des brigades de femmes hein, qui ont d'abord empêché le vote de la loi vue comme une privatisation et puis ensuite ont réalisé tout un travail territorial. Et donc Claudia Sheinbaum était la figure de proue de cette mobilisation. Donc il y a quand même une très forte continuité de mon point de vue.
Alors cette mobilisation tient beaucoup au charisme, en tout cas au début, mais je pense que peut-être encore aujourd'hui, du président sortant AMLO, qui reste donc très populaire, vous l'avez dit, à la fin de son mandat, qui s'achève dans quelques jours. Comment peut-on expliquer ce charisme?
Alors moi, justement, je prends complètement le contre-pied de ça dans mon ouvrage. Je montre que le
Oui, vous
charisme,
dites
c'est
que c'est
quelque
pas que
chose.
le charisme, oui, c'est...
Voilà, que c'est quelque chose qui est construit. C'est parce que, et qui est complètement invisibilisé parce que les médias ne regardent que les conférences de López Obrador. Et en fait, moi, j'ai suivi pendant des années le travail, justement, d'organisation qui a été fait par López Obrador de manière extrêmement incertaine. Il y a des moments où c'était plus du tout couvert par les médias. Je suis partie en tournée avec lui. Il y avait quasiment plus de journalistes qui suivaient son action. Et moi, ce que je voyais était quelque chose de très différent du charisme. C'était un travail très systématique, un travail de quadrillage territorial. Il a sillonné plusieurs fois le pays en allant dans chacune des municipalités du pays. Il a construit des bases de soutien. Et donc, moi, justement, ce que j'essaye de montrer, c'est que justement, on ne peut pas comprendre finalement la construction d'un nouveau parti qui a été Morena, la place qu'a occupée López Obrador, sans ce travail qui était en fait très besogneux. Bon, après, il y a une dimension qui donc il a été très présent par des médias alternatifs à ses conférences tous les matins qui a contribué à ce qui donne le ton sur l'agenda politique et il a été suivi en ça hein, d'une certaine manière par les journalistes, même si ceux qui étaient ses détracteurs, hein, c'est lui qui a toujours finalement dicté l'agenda et donc ça a aussi sans doute joué dans le maintien de sa popularité, mais surtout, enfin, pendant son mandat, la pauvreté a diminué de 8%. Je pense qu'il faut plutôt regarder de ce côté-là que son soi-disant charisme, qui de mon point de vue est vraiment relativisé.
Alors, un charisme donc à relativiser, un dévouement quand même des militants, un certain culte comme de sa personne, de ce que j'ai pu voir moi-même en ayant couvert les élections au Mexique en juin dernier. Ça fait un peu penser à Lula au Brésil. Est-ce qu'il y a des parallèles entre le succès de Morena et celui du Parti des travailleurs au Brésil?
Alors, c'est en partie une histoire parallèle. Hein. C'est la même génération de militants. C'est ces militants qui se sont formés dans les années 70 pour beaucoup, qui ensuite, bon, il y a eu d'autres générations qui sont venues renforcer les rangs de la gauche. Donc ça, c'est un premier point de parallèle. C'est des histoires partisanes aussi. Qui ont des points de similitude. Hein. Le Parti des travailleurs s'est beaucoup appuyé également sur les réseaux associatifs et sur les mouvements sociaux. Donc là, il y a aussi un parallèle important. Et malgré l'histoire houleuse de Lula ces dernières années, il y a cette image aussi de figure morale, on va dire, de la gauche, de probité, de présidents qui sont proches des milieux populaires dans la pratique. Hein, qui, alors Lula en est issu, López Obrador est plutôt issu des classes moyennes de province, mais il a un parler qui est très populaire, il n'a jamais gommé son accent régional. Il y a des parallèles, en effet.
Vous avez parlé de Claudia Sheinbaum, que vous avez suivie pendant des années. C'est effectivement une personne clé de votre livre. Donc, elle succédera à AMLO dans quelques jours, le 1er octobre. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu sa personnalité?
C'est une personne qui est, alors moi, dans les moments où je l'ai fréquentée, je l'ai rencontrée, j'imagine après que les derniers événements l'ont aussi sans doute transformée, mais c'est quelqu'un d'extrêmement concis, précis. Elle est docteur en spécialisée dans les questions d'énergie et puis elle a beaucoup travaillé sur le climat. C'est une universitaire donc qui est plutôt issue elle hein, des classes moyennes intellectuelles de Mexico. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été beaucoup, de mon point de vue aussi, transformée par ces mobilisations auxquelles elle a participé depuis 2006. Elle venait déjà de mobilisations antérieures. Hein, elle avait participé à une mobilisation très importante en 1988 de l'Université nationale autonome comme étudiante. Mais en fait, toutes les mobilisations qui ont succédé après 2006 lui ont donné un ancrage dans les quartiers populaires et lui ont appris aussi hein, finalement à créer ce lien plus personnalisé. Hein. Donc, par exemple, en avril 2023, je l'ai suivie dans la visite de centres communautaires qu'elle a créés, 300 centres communautaires à l'échelle de Mexico, et où, en fait, elle allait rencontrer les usagers, donc très à l'écoute. Hein. Le responsable du programme me disait, c'est très intéressant parce que finalement, elle vient pas pour faire des discours, c'est ce qui est un peu le style de López Obrador, elle vient pour écouter les gens. Et donc, j'ai passé l'après-midi avec elle. Et durant cet après-midi, bah, elle a parlé avec des jeunes qui avaient été déscolarisés, des mères de famille, des jeunes enfants. Et donc, avec cette attitude, finalement, d'écoute, de comprendre hein, la situation de ses administrés. Donc, un style quand même très différent de López Obrador.
Et vous avez à l'époque déjà pensé que éventuellement elle pourrait devenir un jour présidente?
Alors, à l'époque de la mobilisation des Adelitas, pas du tout. Donc, et d'ailleurs, les journalistes non plus, parce que quand j'ai cherché une photo pour la couverture de mon ouvrage, j'ai voulu une photo d'elle dans la mobilisation des Adelitas et il n'y en avait aucune. Donc, elle était complètement invisible hein, aussi pour la presse, même pour la presse mexicaine.
Merci beaucoup, Hélène Combes.